Mais j'écoute Radio Plus sur 104.3 et vous êtes à l'écoute maintenant de l'émission L'Heure Flamande préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer un héros de l'histoire de Flandre, Jacob van Artevelde. Jacob van Artevelde fait partie de ces héros où mythes, légendes et réalités se mélangent parfois, un peu comme l'héroïne de France au nom de Jeanne d'Arc, où l'on peut lire tout et son contraire. Et donc, nous allons, au cours de cette émission, vous faire découvrir donc l'histoire de Jacob van Artevelde.
D'entendre un morceau de musique médiévale du XIVe siècle, Stella Splendis.
Et donc nous allons évoquer au cours de cette émission l'histoire et la vie de Jacob van Artevelde. Alors Jacob van Artevelde est né à Gand. Alors sa date de naissance exacte, on ne la connaît pas vraiment. Les historiens la situent entre 1285 et 1300. Il est issu d'une famille très aisée, même très riche, qui a fait fortune dans l'industrie du drap. La ville de Gand à l'époque, eh bien, c'est une ville très riche, très puissante, grâce justement au commerce des draps, aussi à travers son industrie qui est réputée à travers toute l'Europe. Elle se fournit essentiellement en matière première, c'est-à-dire la laine auprès de l'Angleterre, qui est un précieux allié du comte de Flandre à l'époque. Ces deux pays ont donc des intérêts communs, évidents, pour travailler ensemble, l'un fournissant la matière première et l'autre, bien sûr, la transformant en drap de qualité et qui fait la fortune de nombreuses familles, donc d'artisans et d'industriels de Gand, et la famille Van Artevelde en fait partie. Et à tel point, c'est que, eh bien, la famille Van Artevelde côtoie régulièrement le pouvoir, et en particulier le comte de Flandre de l'époque. C'est une famille, comme on dit, qui compte dans la vie politique et économique de la ville de Gand, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble de la Flandre. Nous savons peu de choses de l'enfance de Jacob van Artevelde, mais on peut facilement deviner qu'il a dû recevoir une éducation pour le préparer, bien sûr, au métier de tisserand et de gérer les affaires de la famille. Il fait partie, bien sûr, de ce qu'on appelle l'élite du pays. Jacob van Artevelde était un enfant qui avait environ 5 ans lors de la fameuse bataille des Éperons d'or à Courtrai en 1302. Et cette bataille, rappelez-vous, a eu des retentissements à travers toute l'Europe occidentale. La puissante chevalerie française venait de se faire battre par les communiers flamands qui, eux, étaient dépourvus de cavalerie. Ils étaient donc vaincus dans les champs non loin de Courtrai. C'était d'une jamais vue. Jacob van Artevelde est né sous le règne du comte de Flandre Guy de Dampierre, qui est décédé donc en 1305. Son fils lui succède. Il est nommé d'ailleurs Robert de Béthune et il règne jusqu'en 1322. C'est ensuite son fils qui va prendre la succession c'est surtout donc avec ce fils Robert de Béthune que Jacob van Artevelde va travailler. Il va travailler ensuite avec Louis de Nevers qui prend donc la succession de son père. Il est aussi connu sous le nom de Louis Ier.
Yeah.
Laïs, vous interprétez. Isabelle, vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc la vie et l'histoire de Jacob van Artevelt. Alors, Jacob van Artevelt va surtout donc affronter le comte de Flandre, qui est donc Louis Ier de Dampierre, dit Louis de Nevers. Et si il n'y avait pas eu ce comte, eh bien, je pense que Jacob van Artevelt, on n'en aurait jamais entendu parler dans l'histoire de Flandre. Mais voilà, Louis de Nevers, qui succède donc à son père en 1322, il est proclamé comte de Flandre, contre d'ailleurs l'avis du roi de France, son suzerain. Le roi de France, lui, aurait préféré choisir Robert de Cassel, mais Charles VI, donc pas content que Louis de Nevers prend le trône du comté de Flandre, va même jusqu'à l'arrêter pendant quelques temps, mais en définitive, il va finir par céder et reconnaître donc Louis de Nevers comme comte de Flandre. Alors Louis de Nevers, s'il est certes comte de Flandre, n'a jamais vraiment vécu en Flandre. Il a passé essentiellement sa jeunesse dans le Nivernais. Il a passé aussi beaucoup de temps donc à Paris, dans la cour de roi de France. Il a une conception très féodale de l'organisation de la vie en société. Il n'apprécie pas du tout en fait ce qui se passe en Flandre, à savoir que, en Flandre, ce sont les villes qui ont pris le pouvoir. Ils ont même d'ailleurs symboliquement donc construit des tours pour affirmer face au pouvoir seigneurial leur puissance. Et donc évidemment le comte Louis de Nevers, il aurait préféré que la Flandre soit un petit peu comme son pays d'origine, avec la toute puissance du seigneur. Alors bien sûr, ces beffrois agacent le comte Louis de Nevers. Il ne comprend pas vraiment la réalité de l'organisation du comté de Flandre, comme il n'admet pas du tout que les commerçants, les industriels flamands, puissent faire commerce surtout avec l'Angleterre plutôt que la France. Car Louis de Nevers, même s'il s'était un petit peu frotté avec le roi de France au départ, néanmoins, il favorise facilement donc le royaume de France. Et d'ailleurs, il fait venir des conseillers de France pour un peu contrecarrer le gouvernement par les commerçants, les guildes de Flandre. Alors on peut bien sûr imaginer facilement que cela crée des tensions qui seront de plus en plus vives.
Wat hebben die oorlogen jou gegeven, die al die eeuwen hebben gewoed, tenzij het land waar je als burger bent ingeschreven, tenzij waar je belasting betalen moet. Misschien was het net zo goed anders gelopen, had een koning nog geld in zijn schatkist gehad. Misschien had hij landsknechten bij kunnen kopen, hing een andere vlag in je vaderstad. Het is een toeval dat levenden kan verbazen, maar het is van dit lied het eentonig refrein. De duizenden doden zijn de dwazen, het is steeds zo geweest en zal steeds zo zijn.
Wat weten de levenden van die doden? Dat ze lachten en weenden, net als wij. Dat ze bouwden en braken, loofden en boden. Dat ze hoopten en treurden, net als wij. Ze vrijden in park, de Versailles als de Londen. Ze kusten te Praag als de Petrograd. Ze liepen te wapen en stierven als honden. Nog 1 uur voor de vrede in hun vaderstaat. Het is een toeval dat levenden kan verbazen, maar het is van dit lied het eentonig refrein. De duizenden doden zijn de dwazen. Het is steeds zo geweest en zal steeds zo zijn. Wat is er van al die miljoenen geworden? Die marcheerden voor vorst en voor vaderland. Ze stierven en nog eer hun gebeenten verdorden, reikten hun bazen elkaar weer de hand. Want steeds even plots, als hij was begonnen, was plots elke oorlog weer voorbij. Steeds heeft zich de wereld bij bloed bezonnen, maar de doden waren er nooit meer bij. Geweest en het hoeft niet te verbazen, maar het is van dit lied het eentonig refrein. De duizenden doden zijn de dwazen. Het is steeds zo geweest en zal steeds zo zijn. Wat hebben die oorlogen jou gegeven, die al die eeuwen hebben gewoed? Tenzij het land waar je als burger bent ingeschreven, tenzij grenzen betaald met leed en met bloed. En achter die grenzen van zuiden tot noorden, al mensen die willen gelukkig zijn, maar die straks op bevel elkaar weer vermoorden en dan weer op bevel elkaars vrienden zijn. Steeds zo geweest en het hoeft je niet te verbazen, maar het is van dit lied het eentonig refrein. De duizenden doden zijn de dwazen. Het is steeds zo geweest en zal steeds zo zijn.
Milcols, vous interprétez des milliers de morts sont des sots, en fait. Et vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc Jacob van Artevelde. Nous sommes à l'époque donc où le comte Louis de Nevers a pris donc le trône de comte de Flandre. On est en 1322 et très vite, ce comte qui est très pro-français fait venir donc des conseillers de France, du royaume de France, parce qu'il n'admet pas, disons, l'organisation telle que lui le conçoit, c'est-à-dire que ce comte, eh bien, pour lui, il garde une structure féodale, tandis que la Flandre, eh bien, le pouvoir seigneurial y est déjà beaucoup plus diminué, et les commerçants gèrent leurs affaires, et même les communes ont des chartes de liberté, et ont, pour symboliser cela, construit les fameux beffrois. Alors évidemment, il y a une partie bien sûr de la noblesse flamande qui est quand même pro-française, et évidemment le fait que le comte de Nevers, Louis de Nevers, veut donc que la Flandre ne commerce plus avec l'Angleterre, mais plutôt avec la France, eh bien, ça bouscule, bien sûr, eh bien, les courants commerciaux. Ça entraîne de plus en plus d'hostilité de la part, eh bien, des tisserands, des industriels, qui, eh bien, n'admettent pas les décisions de leur seigneur. Et évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur la production. Et ainsi, l'économie flamande connaît un début de récession. Évidemment, qui dit récession dit un peu plus de pauvreté. Donc un peu partout en Flandre, plusieurs révoltes jaillissent. On peut même voir certaines villes qui se soulèvent carrément contre le comte Louis de Nevers, comme la ville de Bruges, qui s'est vue privée de son port, le port de Sluis. Les révoltes sont de plus en plus fortes car les décisions de ce comte entravent vraiment l'activité économique et entraînent même certaines faillites d'entreprises. Des villes comme Bruges, Gand voient leur prospérité décliner d'une façon rapide, si bien que évidemment les révoltes sont de plus en plus violentes. Et le comte de Flandre, pour mater tous ces révoltés, fait appel au roi de France, donc Philippe VI. C'est ainsi que a lieu cette fameuse bataille de Cassel le 23 août 1328. Les Flamands, qui étaient alors dirigés par Nicolas Zanneken, Nicolas Zanneken était un riche marchand, un tribun hors pair, et bien sûr il se battait pour les libertés urbaines. Il va rallier autour de lui de nombreuses communes flamandes, et bien sûr le comte de Flandre veut le remettre à raison, et il est aidé donc par le roi de France. Ça sera donc cette terrible bataille de Cassel du 23 août 1328, où malheureusement Nicolas Zanneken va perdre la vie. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on a toujours deux associations qui honorent la mémoire de ce Nicolas Zanneken. L'une qui est à Ypres et l'autre qui est totalement indépendante. Ce sont deux associations qui ne sont pas jumelles, qui n'ont rien à voir entre elles, sinon de commémorer la mémoire de ce défenseur des libertés flamandes. Et c'est ainsi qu'il y a une autre association, donc en Flandre française, qui organise chaque année au mois d'août une belle fête familiale que je ne peux que vous inviter à fréquenter et qui a lieu donc le dernier dimanche du mois d'août à Rexpo. Donc c'est la Zanneken Fest.
Negen maanden min een dag, de dochter in het kraam met lang, het kind dat al.
d'entendre le groupe Quadrille. Vous interprétez l'espagnol à Gand et vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc une grande figure de l'histoire de Flandre, Jacob van Artevelde. Alors, la période est une grande période de turbulence et le comte Louis de Nevers, le comte de Flandre, eh bien, malgré les protestations des populations, eh bien, reste sourd totalement aux revendications et aux critiques de son peuple. Il va même jusqu'à obliger les navires flamands à rentrer en guerre contre les navires anglais. Et ainsi, eh bien, évidemment, l'Angleterre, voyant de ce revirement de la Flandre envers ses navires, eh bien, tout simplement, coupe les vivres, à savoir, elle ne livre plus la laine, matière première donc absolument indispensable de l'industrie drapière. La récession ne fait que s'accentuer. Les familles van Artevelde sont directement touchées. Malgré leur puissance financière, eh bien, évidemment, ils voient leur chiffre d'affaires baisser. C'est la colère, naturellement, des artisans, des ouvriers tisserands qui ne cessent de gronder. Mais le comte de Flandre reste totalement sourd à toutes ces revendications. Il va même... on se pose la question à savoir quel était son intérêt, puisque ce pays de Flandre qui est dirigé, eh bien, connaît vraiment une récession terrible, et pourtant la Flandre, quelques années auparavant, était un comté particulièrement riche et puissant de toute l'Europe occidentale. Alors évidemment, la famille van Artevelde, et en particulier Jacob, eh bien, lui, il va fédérer toutes ces mécontents, et il va en particulier donc réunir autour de lui, eh bien, les industriels, les ouvriers tisserands, enfin tous ceux qui voient leur travail supprimé, et voir aussi le risque de tomber dans la pauvreté. Et donc, il rallie autour de lui petit à petit un véritable mouvement contestataire, comme on dirait aujourd'hui, mais qui, eux, vont beaucoup plus loin puisqu'ils commencent à prendre les armes.
Thank you.
d'entendre le groupe Prima Nocta vous interpréter la Bären Dance, la danse des ours, un morceau de musique traditionnelle. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons Jacob van Artevelde. Et donc, ça va mal en Flandre à ce moment-là. Le roi d'Angleterre, lui, en 1336, fâché de voir ses navires attaqués par quelques navires flamands, décide purement et simplement de stopper la livraison de laine, ce qui va créer d'ailleurs dans son propre royaume beaucoup de mécontents, parce que les producteurs de laine, bien évidemment, voient leur débouché leur commerce bloqué tout simplement. Et donc là aussi, ça entraîne bien sûr de la misère. Le roi de France ne trouve rien de mieux que d'envoyer des agents pour percevoir l'impôt en Flandre, alors que cette contrée est en pleine récession. Il a gardé bien sûr l'image d'une Flandre riche et prospère, et donc il pense bien pouvoir percevoir un maximum d'impôts, et c'est l'arrivée de ces percepteurs ça sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, qui va déclencher vraiment la colère des Flamands. Et donc là, partout, les villes se soulèvent. Et évidemment, on connaît une véritable crise économique terrible. Jacob van Artevelde, en janvier 1338, prend la tête de cette révolte. Les grandes villes de Flandre se rallient sous sa bannière. Jacob van Artevelde prend alors les rênes du comté de Flandre. C'est pas un coup d'État, mais ça n'en est pas loin, quasiment. Le comte Louis de Nevers, lui prend peur et il va se réfugier en France. Entre-temps, Jacob van Artevelde, je vous rappelle, issu d'une famille d'industriels de l'industrie drapière, et donc évidemment, il a aussi le souci de ses intérêts, de ceux de sa corporation. Il va rencontrer le roi d'Angleterre, Édouard III, pour tout simplement relier les liens commerciaux. Le roi d'Angleterre, lui aussi, il a entendu les protestations de son propre peuple qui n'arrive plus à écouler leurs marchandises, la laine en particulier. Et donc, ils arrivent à avoir un accord, et ainsi la Flandre va retrouver pendant quelque temps une certaine prospérité, puisque ces machines vont pouvoir à nouveau tourner et donc reprendre leur commerce. Donc Jacob van Artevelde rencontre le roi Anvers en 1339 et va ainsi permettre à la Flandre de retrouver une certaine prospérité. Jacob van Artevelde va même beaucoup plus loin, puisqu'il promet de fournir des troupes au roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, donc Édouard III, qui, rappelons-le, est le petit-fils de Philippe le Bel, et à ce titre, il réclame purement et simplement le trône de France. Il a d'ailleurs des terres déjà en France, puisqu'il est duc de Guyenne. D'ailleurs, cette revendication de Édouard III pour le trône de France va être à l'origine de la terrible guerre de Cent Ans.
Vanaf dag 1 mijn hart verdient, heb jij me betrokken. in mijn armen. Kom jij jezelf aan me warmen. En dan denk ik soms, dit zijn de mooiste dromen. Je laat het zonlicht naar binnen, gewoon door mij te beminnen. Ik ben dankbaar dat ik jou mocht tegenkomen. Wees niet bang dat jij me ooit weer zal verliezen. Want die dag liet jij me voor het leven kiezen.
D'entendre Willy Sommers vous interpréter Vanaf Dag Één depuis le premier jour, depuis le jour 1. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et nous évoquons donc aujourd'hui Jacob van Artevelde. Alors Jacob van Artevelde qui a carrément l'a pris les rênes du pouvoir, puisqu'il va même jusqu'à négocier avec le roi d'Angleterre, Édouard III, pour renouer afin de retrouver les sources d'approvisionnement en laine en particulier pour faire tourner bien sûr l'industrie textile de Flandre et retrouver une certaine prospérité. Et évidemment, il va même très loin, Jacob van Artevelde, puisque il promet au roi d'Angleterre de fournir des troupes contre le roi de France. Il va même jusqu'à reconnaître Édouard III comme roi de France, donc c'est vraiment aller très très loin dans l'allégeance. Et évidemment, le comte Louis de Nevers, qui lui est réfugié en France, eh bien naturellement il n'a pas croisé les bras, il n'attend pas que ça se passe. Il a bien sûr activé son réseau, il sait que la noblesse, une grande partie de la noblesse flamande, elle est plutôt pro-française, et donc il fait actionner ses partisans. Est-ce que les amis de Jacob van Artevelde estiment qu'il va un peu trop loin? Toujours est-il, c'est que eh bien Jacob van Artevelde, en juillet 1345, il est assassiné et ainsi se termine son aventure, malheureusement dans une triste situation. Mais néanmoins, Jacob van Artevelde reste le symbole des luttes pour la liberté et la justice sociale, et c'est ici que commence sa légende. Et nous allons ici écouter un texte justement qui donne cette part de légende de ce personnage, Jacob van Artevelde.
C'est un texte écrit par Émile Verhaeren dans un chapitre intitulé Les héros, dans son œuvre qui s'intitule Toute la Flandre. Oh, ce soir de juillet où le tribun mourut, soleil de Flandre, en avez-vous gardé mémoire? Sa ville était dorée aux rayons de sa gloire, et le monde changea quand son geste apparut. Pour la première fois, quelqu'un de Gand, un homme, parla sans se courber, en roi devant un roi. Son verbe était si prompt à défendre son droit qu'on lui choisit pour chef au temps rouge dans Rome. Les fronts, les bras, les mains des turbulents métiers étaient son front. Ses bras, ses mains étaient sa force. Il rangeait en faisceau leur volonté retorse. Il était à lui seul un peuple tout entier. Tous les grondements sourds et violents des rages, tous les éclairs et tous les feux de la fureur, passaient si bien du cœur des autres en son cœur qu'il était comme armé de leur mouvant orage. Et sage autant que ferme, il entreprenait tout. Rien au monde ne put jamais vaincre sa tête. Quand il sentit tomber le soir de sa défaite, son âme ardait encore comme du fer qui bout. Longtemps, il vécut seul, sans manier les foules. Leur colère, leurs cris, leurs triomphes, leurs houles ne battaient point de leur flot arrogant sa tranquille maison, sise en un coin de gant, le long des eaux à la biloque. Le soir, autour du feu, il aimait les colloques, et nul ne parlait mieux. Il brassait l'hydromel, couleur de flamme et d'ambre, et lorsqu'il dévoilait quelque profond dessein devant son fils ardent et ses calmes voisins, de grands brocs surchargeaient les tables de la chambre. Survint et la misère et la ruine et l'effort vint. Les gros vaisseaux anglais, chargés de lourdes laines, Flandre ne cinglait plus vers tes villes lointaines qui regardaient la mer. Et tes beaux draps, faits avec l'or des toiseaux blondes, ne se dispersaient plus par les marchés du monde au bout de l'univers. L'heure tintait à tes beffrois, morne et bourrue. Tissant et foulon hurlaient parmi tes rues. Ils exigeaient du pain. Tes grands métiers chômaient, leur vie était à vendre, et ton prince avait fui pour ne plus rien entendre des affres de la faim. Oh, il naquit dans l'air, et la rosée en fait le jour élu, où Jacques d'Arteveld imposa ton salut. Un mensonge sauveur illumina sa tête. Dans le dédale obscur et compliqué des droits, une raison surgit de te donner pour roi et nouveau souverain et protecteur utile, Édouard III, le maître ardent de la grande île. Et la cause fut sienne, et ton travail reprit. Alors la joie immense entra dans les esprits, avec une fureur trépidante et farouche, sans mesure, terriblement durant des jours. La foule entière, avec ses bras, ses mains, ses bouches, darda vers son sauveur un formidable amour. Oh, quel reflux soudain en ses cerveaux fébriles! Des flammes de bonheur incendiaient les villes. L'allégresse montait comme un embrasement. Toutes les tours sonnaient vers les campagnes proches, et comme au temps clair des clairs orgueils, Bruges et Gand sautaient vers l'avenir dans les bonds de leurs cloches. Arteveld fut roi, roi sans titre, mais roi quand même. Gloire fut son sacre et son baptême. Sa volonté nouait ou dénouait la loi. Toutes les âmes à son âme cueillaient leur flamme. Il était simple, il était juste, il était craint, et les yeux dans les siens cherchaient ceux du destin. Ô peuple, il gouverna la colère apaisée. Tu fus celui qui fut le premier au cours des temps contre les vieux pouvoirs vagues et envoûtants, opposa nettement sa raison avisée. Il te refit d'audace, il te refit la foi. Tu pus avec ferveur disposer de toi-même et petit sentir quelle force suprême pour s'éveiller dans le futur dormait en toi. L'orgueil, il le savait de tes cités rivales et les sourdes fureurs de tes métiers entre eux. Mais il aimait sentir un pouvoir dangereux charger et requérir sa volonté totale. Les tumultes secrets, mais violents des cœurs, longtemps il les maintint captifs sous son génie. Les fronts ne se sentaient pas régner sa tyrannie, ni les torses pesaient sur eux ses poings vainqueurs. Sa force souple avait la peur d'être hautaine. Pourtant, un jour là-bas, au loin, devant tourner qu'il s'acharna, comme ébloui et fasciné, a vainement fixé la victoire incertaine, et qu'il revint sans gloire acquise et butin pris, tous doutèrent soudain de sa puissance. Et lentement, l'âpre et sournoise effervescence qu'il n'étouffa jamais au tréfonds des esprits, grandit dans les cités qui se disaient serviles. Termonde, Alloste, Courtrai, Gramont, toutes les villes secouèrent soudain l'autorité de Gand. Comme jadis au temps de la Grèce superbe, ce fut sous un grand vent de vouloir arrogant contre la fleur de choix les révoltes des herbes. Et la Flandre ploya, saigna, traîna son deuil, échu, le front chargé d'un trop nombreux orgueil. Heures sombres, mais qui furent encore plus sombres, quand la cité qu'on jalousait, Gand lui-même se dépeçait, à coups d'ongles dans l'ombre, ses deux métiers, tisserands et foulons, sentant sur eux souffler les aquilons, de leur rage de jour en jour accrue. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'avais un long texte de tiré donc des héros, écrit par Émile Verhaeren, dans un ouvrage intitulé « Toute la Flandre ».
Et donc c'est la part de légende de ce personnage, Jacob van Artevelde. L'émission touche à sa fin. Nous vous souhaitons une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus.